Tu viens de naître. Tu sors de l'œuf. Et tu viens m'expliquer des choses. Tu crois vraiment que je suis pas au courant de tout ce qui se passe là? Qui sont tes amis? Tu crois que je suis venu ici sans savoir?
Mon ami, est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi?
Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Hein, mon ami, mon ami. Tu parles avec un représentant de l'État. Ok? Ouais. Moi, je suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible.
Ah bon?
Ah, ça t'étonne?
Eh bien, le peuple, il a quelque chose à dire. Justement, maintenant.
Ce soir, du studio du Festival de Cannes, nous avons la chance d'être avec Albert Serra, qui présente son nouveau film, Pacification, en compétition officielle. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et nous avons choisi Dans mon île d'Henri Salvador.
Dans mon île, ah, comme on est bien. Dans mon île, on ne fait jamais rien. On se dort au soleil qui nous et l'on paraisse sans songer à demain. Dans mon île, ah, comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou. Grand cocotier qui se balance en silence, nous rêvons de
a découvert Albert Serra il y a quelques années avec ce remarquable film intitulé « Honneur des Cavalleria » qui était une adaptation du Don Quichotte. Ensuite, vous avez continué votre travail à la fois cinématographique et d'artiste plasticien par des installations dans des musées, mais aussi par des films comme celui consacré à Louis XIV, comme celui intitulé « Histoire de la mort », l'avant-dernier s'intitulait « Liberté », c'était une adaptation du Marquis de Sade. Et vous revenez aujourd'hui en compétition officielle par la Grande Porte avec votre nouveau film intitulé Pacification. Mais commençons par le début. Où avez-vous passé votre enfance et comment s'est-elle passée cette enfance, Albert Serra?
Moi, je suis né à la campagne, au nord de Barcelone, pas loin de la frontière avec la France, à Figueras, à côté de Figueras. Mes grands-parents sont de Figueras, où il y a les musées d'Ali, etc. Et c'est très bien passé, très simple. Moi, je suis fils unique, alors j'étais assez solitaire. C'était une famille typique. Ma grand-mère était couturière, ma mère aussi couturière, avec son petit atelier. J'ai grandi, mon père était un peu dehors, plus, non, il voyageait un peu. J'ai grandi plutôt avec ma grand-mère, ma mère, en train de voir comme ils travaillaient et faisaient des costumes pour les femmes du village. Très bien passé, très sympa, facile. J'ai aucun regret, rien à me plaindre.
Que vous ont-elles appris, votre mère et votre grand-mère?
Je ne sais pas, peut-être l'idée de la discipline du travail. Alors, peut-être cette vision dans le long terme, de n'importe ce que tu fais, ça a été important. Et au travail encore, évidemment, avec ma mère, je ne sais pas, ça m'a peut-être marqué.
Il y avait un cinéma, Figueras?
C'est pas Figueras, c'est Bagnolas. Ils sont de là, mais nous, notre place était à côté. Oui, on y allait souvent. Mais j'étais très petite, parce qu'après, il a disparu. Et bon, je me souviens des typiques de Superman et des choses comme ça.
Ben, je vous propose d'écouter Louise Buñuel, qui va parler de sa vision du cinéma. C'est une archive de 1958.
À ce moment-là, je n'étais pas un metteur en scène. J'aimais beaucoup le cinéma. J'étais assistant d'Epstein, comme vous savez. Mais le cinéma était un moyen d'expression pour... aider dans notre lutte poétique, sociale, etc., les groupes surréalistes. Mmh. Donc j'ai employé les images comme d'autres ont employé la poésie ou la peinture. Je ne connaissais pas de producteurs, ni personne, je n'étais pas dans les milieux du cinéma. Mmh. Alors ma mère m'a payé Le Chien Andalou. C'est une bonne femme, bourgeoise, très catholique, ne savait pas ce que j'allais faire. Elle m'a payé Le Chien Andalou. Après le Vicomte de Noailles, grâce à Cocteau, Vérard, tous les gens de l'époque, m'ont proposé de faire L'As d'Or. C'est-à-dire un film. J'ai fait le scénario et j'ai réalisé L'As d'Or. Voilà la raison. Mais le rapport avec le mouvement surréaliste, c'était un surréaliste très convaincu. Et j'ai passé... Ça a été une discipline merveilleuse pour moi, pour le reste de ma vie. C'est un grand souvenir pour moi.
Impossible de ne pas penser à Louise Buñuel quand on voit votre cinématographie, Albert Serra. Que représente-t-il pour vous? Et est-ce qu'il vous a indiqué la voie? Il pourrait être votre arrière-grand-père, mais ouais. Il peut être important dans votre imaginaire.
Oui, c'est très important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est l'attitude, c'est-à-dire l'attitude de tous les jeunes qui ont né ou qui ont commencé à faire des choses dans les avant-gardes classiques du XXe siècle. Alors là, il y avait vraiment cette attitude incorruptible, non, des jeunes qui sont pour l'art, strictement pour sa propre vision artistique et pour rien d'autre. Alors lui, il a continué fidèle à cette vision jusqu'à les derniers films, jusqu'à les derniers moments de sa vie. Aussi, cette attitude un peu, comme on vient d'écouter, qu'il, bon, il ne donne pas beaucoup d'importance au cinéma, même il méprise un peu le cinéma comme art, non? Cette idée, c'est aussi dans ma tête un peu, parce que moi j'aime beaucoup la littérature et j'ai toujours pensé que, bon, n'importe quel mauvais écrivain a plus de mérite que le plus grand réalisateur. Je sais pas, c'est
Pourquoi vous n'êtes pas devenu écrivain, alors,
Albert
Serra?
J'étais paresseux, surtout que c'est beaucoup plus amusant d'être réalisateur. Alors, je suis un peu corrupt. C'est la seule chose dans avec laquelle j'ai cédé un peu. Et j'ai décidé de faire du cinéma, surtout avec les numériques, parce que c'était vraiment drôle. Avant, c'était plus simple. Il y avait un côté émouvant, très simple, très primitif, très basique. Et maintenant, tout est plus, je sais pas, plus complexe, là, dans les images, je pense. Non, le mystère a grandi d'une façon inattendue, même pour moi. Alors, je sais pas. Mais Buñuel, le problème, c'est que lui, il a pas de, comme dire, personne l'a influencé. Aucun autre réalisateur, même, l'a dit aussi. Et il peut pas influencer les autres personnes. C'est très difficile de trouver des disciples de Buñuel ou des personnes qui l'ont précédé. Alors, c'est vraiment des figures isolées. Et moi, et je crois que tous les artistes ont un peu cet objectif de créer un style unique, personnel, qui n'est pas facilement adaptable, qui ne se tire pas d'une autre personne ou d'une autre, de notre esthétique. Et évidemment, moi je suis plus proche, pour des raisons géographiques, à Dali, mais bon, c'est vrai que c'est une très grande collaboration entre les deux. Si je devrais choisir, je choisirais Dali, mais pour des raisons personnelles.
Eh bien justement, vous allez écouter Salvador, qui était votre voisin. Nous allons écouter la voix de Salvador Dali exprimer sa conception de la monarchie et de l'anarchie. Ça nous permettra de parler de vos opinions politiques. Albert Serra, nous écoutons la voix de Dali. C'est une archive INA du 8 janvier 1978. C'était au micro de Pierre Boutin.
Je suis évidemment catholique, apostolique et romain. Et un peu roumain aussi, à cause de Ceausescu, que c'est un grand personnage. Et alors, je crois que la monarchie, c'est la chose la plus nouvelle et la moins comprise de toutes celles qu'il a agitées.
Je le crois aussi profondément.
Je croyais, je l'étais plus ou moins. J'étais anarchiste et monarchiste, mais je croyais que la monarchie, c'est une espèce de superstition. Et maintenant, depuis la découverte de la structure moléculaire de l'acide désoxyribonucléique, ça prouve la transcendance et la vigence totale que depuis la première molécule vivante jusqu'au dernier de nos excréments, tout s'est transmis génétiquement.
Nous sommes encore dans l'hologramme, en somme. Nous sommes dans la totalité. Mais alors, bien sûr, j'ai aussi une idée de la monarchie, ça a beaucoup moins d'importance que la vôtre. Je crois qu'il faut bien faire attention, surtout quand, comme je le suis, on est monarchiste en croyant que c'est possible, pratique, de ne pas jeter le discrédit sur cette idée qui est éminemment réelle et qui est éminemment liée, d'ailleurs, à l'anarchie dont vous parlez. Les anarchies nécessaires. Je crois à la légitimité révolutionnaire. Je crois au prince qui serait le serviteur de cette légitimité. Mais ce que je cherche, c'est comment vous allez...
Tous les anarchistes étaient des princes.
Oui, mais tous les princes, malheureusement, n'ont pas été assez anarchistes, alors qu'ils étaient tout à fait libres de l'être.
Mais je préfère qu'il n'y ait pas de mélange. En haut, le maximum d'unité, et en bas, le maximum d'hétérogénéité.
J'ai bien envie
de mélanger. C'est de la lutte, c'est pas la conciliation. C'est de la lutte des deux tendances qui naît un monde créatif.
Alors nous venons d'entendre la voix de Salvador Dali qui s'exprimait avec Pierre Boutang. Pierre Boutang était un intellectuel catholique qui s'affichait à la droite la plus dure et qui s'affirmait monarchiste. Salvador Dali est un génie à la fois sur le plan artistique, sur le plan de l'inventivité des mouvements artistiques, conceptuels. Il est reconnu, évidemment, dans le monde entier, particulièrement en Espagne, mais aussi en France, dans ce musée de Figueras. Il se trouve que on a vraiment l'impression physique, quand on a la chance de pouvoir visiter ce musée, de voir que Salvador Dali et son épouse étaient porteurs d'un monde total. Salvador Dali dessinait tout. Aussi bien son lit que la tasse de café qu'il prenait tous les matins, etc., etc. Qui est Salvador Dali pour vous, Albert Serra?
Surtout, lui, il est un anti-bourgeois.
Ça, c'est... en étant très bourgeois.
Oui, je ne sais pas hein, jusqu'à quel point, parce que son obsession, c'était chaque minute de sa vie, chaque seconde, chaque jour, de faire les choses différemment à les autres. N'importe quoi, les choses, de la chose la plus petite, alors dépenser, dépenser, réagir. Et c'est ça qui lui donne un air très, très bizarre, parce que si vous écoutez cette émission qu'on vient d'écouter, il est très spontané et en même temps très artificiel. On a presque arrivé à voir une autre personne, surtout dans les émissions télé, émissions vidéo, de quelqu'un qui vraiment réagit avec une violence vraiment dans les yeux, dans la façon hyper spontanée, mais en même temps c'est une construction complètement artificielle. Alors ça c'est fascinant. Chez lui, il rentre vraiment un mystère très très profond. Évidemment, si on parle, je sais pas, des autres aspects de sa personnalité, sa sexualité, etc. Tout est lié à ce mystère profond, mais c'est bizarre. Moi, j'arrive à comprendre un peu, mais après, il y a toujours l'humeur, non? Il dit des choses très visionnaires aussi. Il dit, je préfère l'unité en haut et l'hétérogénéité en bas. Après, il dit la monarchie, il fait un éloge de la monarchie, mais il dit, c'est une superstition. Il est toujours comme ça, non? Et moi, j'adore. Et bon, maintenant, il a été déjà très revendiqué comme écrivain, comme personnalité, je sais pas. C'est ce qu'il a aimé de mêler la catégorie avec l'anecdote, non? Normalement, pour les prestiges, les jeunes, non? Pour son propre prestige, aiment pas de mélanger ces deux côtés. Et lui, il le faisait tout le temps. Il adorait un peu provoquer avec ça, et de la banalité la plus absurde, la plus ridicule, en faire une théorie complètement c'est pas philosophique ou moral ou n'importe quoi. Lui, il est vraiment un personnage unique et très, très subversif. Non, même André Vreton, dans les dernières conversations à la radio, il a reconnu qu'au niveau de mettre la subversion, non, cette vieux rêve de surréalisme dans la vie quotidienne, de la vraiment insérer, encadrer dans la vie quotidienne, lui c'était le seul qui avait arrivé à essayer de le faire jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je trouve que ça, c'est un bon exemple. Même personne ne peut le suivre à ce niveau-là. Mais bon, c'est toujours un bon exemple pour être prête, pour faire des petits changements, pour améliorer, pour créer des choses, même dans les petits détails de la vie quotidienne.
Et vous, vous êtes monarchiste ou anarchiste, Albert?
Moi, je crois que je suis plutôt anarchiste, oui. Parce que c'est la seule solution aujourd'hui. La monarchie aujourd'hui, ce sont les grandes entreprises, les chefs des grandes entreprises, c'est la monarchie. Et c'est vraiment une espèce de monarchie à côté de la dictature, très efficace. Je crois que seulement le désordre total et complet peut arriver à, je sais pas, à mettre un contrepoint à ce pouvoir extrême qui est devenu presque abstrait et très, 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 très dangereux et très, très douloureux. Pour la plupart des gens.
Vous aussi, vous aimez transgresser les règles. Vous aussi, vous aimez inventer de nouveaux langages. Vous aussi, vous êtes artiste, artiste cinéaste, évidemment, mais aussi artiste plasticien, puisque vos œuvres se retrouvent dans les grands musées du monde entier. Et quelquefois, des œuvres plastiques peuvent donner lieu à des nouveaux territoires cinématographiques. Donc, vous inventez de nouveaux langages en permanence. On le disait tout à l'heure, on vous a découvert il y a quelques années, c'était un éblouissement avec votre adaptation de Don Quichotte, Honneur de la Cavalleria, film poétique, fulgurant, film philosophique. Quand avez-vous lu la première fois Don Quichotte et combien de fois l'avez-vous lu, Albert Serra?
C'est un livre compliqué. Moi, je l'ai lu qu'une fois. Après, il y a des passages que j'ai lus et relus. Mais c'est un livre un peu... Il y a des moments un peu ennuyants, quand il y a des petites histoires à l'intérieur, des petites histoires à l'intérieur. Alors, c'est un livre canonique, mais... je ne sais pas, j'ai lu La Recherche deux fois, presque trois fois, tout entière, de la première à la dernière page. Mais Don Quichotte, c'est un livre... Plus, on y rêve plutôt qu'on le lit. Évidemment, on le lit, je sais pas, au niveau de langage, pour la langue castellane, c'est un monument. Je sais pas, c'est un livre, c'est une référence plutôt dans l'idéalisme, dans le cœur, qu'une lecture permanente dans ma vie.
En tout cas, vous aviez décidé...
Moi, j'ai étudié à l'université, j'ai étudié la littérature. J'ai jamais étudié de cinéma, alors...
Vous n'avez jamais appris le cinéma?
Non. Alors, j'ai...
Ah, donc vous avez pris la caméra pour...
Comme ça, oui.
Pour faire votre adaptation du Quichotte.
C'est ça. Peut-être assez cohérent, non? Moi, j'ai dit toujours que j'aimais, comme les Don Quichotte, c'était un peu l'idée du film, qu'il s'investit à lui-même, non? Il prend les petits outils qu'il a à côté et il décide d'être chevalier, non? Il s'investit comme il a lu... Non, les livres de la chevalerie, ils décident de faire la même chose. Moi, avec les réalisateurs que j'ai aimés comme cinéphiles, et j'ai pris les petits outils à côté de moi, c'est-à-dire les petites caméras numériques au début, et les jeunes qui sont autour, c'est-à-dire mes amis ou des jeunes comme ça. Et moi, je m'ai investi à moi-même comme réalisateur, mais sans rien d'autre. Simplement avec l'amour aux autres films, les films des autres, comme Don Quichotte, il a fait pour l'amour à les livres d'autres personnes. C'est le même processus et j'ai aimé cette cohérence quand j'ai fait ce film et je trouve que c'est émouvant d'une certaine façon et qu'en plus ça, après, a décidé toute en carrière et peut-être toute en vie, pas seulement de moi, mais de certaines personnes à côté de moi, ça c'est assez, non? C'est cohérent avec cet idéalisme de Don Quichotte qui parfois peut changer les destins même des autres personnes.
En tout cas, c'était un film philosophique, un film sans aucun apparat, sans aucun décor, tourné en pleine nature, un film extrêmement profond, où s'échangeait à travers le dialogue entre les deux protagonistes une certaine idée de la vie. Est-ce que c'était aussi une certaine idée du cinéma que vous vouliez rénover?
Oui, à cette époque-là, non.
À partir de rien, aucun moyen technique.
C'est ça. C'est le même avec un peu l'imagination, non? L'idée de, par exemple, c'est assez bizarre. Parce que, avec les grands romans, avec les grands livres, on a trop de respect, non? Au moment de les adapter sur l'écran. Parce qu'on croit que c'est déjà des monuments littéraires, alors on n'ose pas. Alors, les faire d'une façon différente, c'est pas évident, surtout avec des classiques très très, comment dire, très très vieux comme les Don Quichotte. non? Et bon, là, moi, j'ai choisi de tourner comme les entre-chapitres, les moments qui ne sont pas dans les livres, qui ne sont pas racontés par Cervantes. Qu'est-ce qui se passe avec les deux personnages quand ils sont juste un moment avant que les chapitres commencent, juste après de la narration. Et avec tous ces morceaux, avec des petites, comme dire, traces ou signes du livre ou des personnages qui sont loin, qu'on entend, qu'on voit de très loin, on a construit ce monde vraiment intime, non, de les deux personnages, cette amitié. Et c'est beau aussi parce que c'était l'amitié aussi des deux acteurs qui ont joué le deux rôles principaux, qui est né au cinéma et qui a continué dans plusieurs films, il a évolué. Et un film, comme vous avez mentionné que j'ai fait des films pour l'art, c'est vrai. J'ai fait un film pour la Biennale de Venise d'art, un film pour 5 écrans en installation, mais un film fiction. Et les deux personnages, ils se sont mariés, c'est-à-dire les deux acteurs, ils sont un couple gay, et ils se marient et ils adoptent un enfant. Alors c'est vraiment tout un parcours d'amitié qui est dans l'écran, à l'intérieur, vraiment au cœur de l'œuvre d'art, qui a évolué. Et qui a évolué en parallèle à son propre amitié réelle, qui se confond vraiment, parce que j'ai vécu avec eux, je sais pas, plein de voyages, après dans les festivals, etc. Et c'est une amitié qui se confond totalement avec les films qu'ils ont faits, qui comme ça évolue dans l'écran et comme a évolué à l'extérieur de l'écran. Et c'est très, très bizarre, et ce film, c'est très, surtout pour mes fans, ou les fans de mes films qui connaissaient bien tout mon travail, c'est très émouvant.
Je vous propose d'écouter la voix de Pier Paolo Pasolini à propos du religieux. Nous n'oublions pas que Pasolini a été le seul cinéaste. Maintenant, il y a Albert Serra, qui est là en face de moi, mais ça a été le seul cinéaste à adapter le Marquis de Sade. Nous écoutons sa voix. C'est une archivina du 7 novembre 1976.
On peut dire que, dans toute votre démarche, vous êtes une... disons... un esprit religieux dans une intelligence athée. La pierre de touche de tout ce que vous avez fait jusqu'ici.
Oui, c'est cette formule. C'est la meilleure entre toutes les formules qu'on a employées pour nous. C'est une formule de toute façon mieux que les formules qui parlent du marxisme, du catholicisme, etc. Oui, c'est une formule. Peut-être que je pourrais la modifier un peu et parler d'esprit rationnel au lieu d'esprit athée.
L'esprit religieux est d'origine psychologique. C'est l'attitude de vénération, de terreur, de respect de l'enfant vis-à-vis de ce que l'on appelle la scène originelle. Cette expression est employée par les historiens de la religion ou les psychanalystes pour désigner l'accouplement des parents. Ainsi, dans l'imagination de l'enfant, on trouve l'extrapolation visionnaire de la mère douée du pénis et du père doué de l'utérus. Et cette scène originelle, la première enregistrée par la conscience de l'enfant, est celle qui a créé en moi un certain traumatisme et donc une attitude religieuse face à la réalité tout entière. Elle est donc plus psychologique qu'animiste. Il est clair que mon genre de religion ne prend pas en considération la religion catholique ni aucune religion confessionnelle parce qu'elles sont précisément une manipulation, une confection de ces deux derniers siècles, ce qui ne m'intéresse nullement. J'ai donc tendance à me sentir apparenté à ces types de religions qui sont proches de la religion des enfants.
La religion des enfants, c'est magnifique ce que vient de dire Pier Paolo Pasolini, Albert Serra. Oui. Vous êtes de ce côté-là?
Oui. Il y a une constatation qu'il existe un désir, presque dans tous les hommes. C'est très difficile à imaginer une personne, un enfant sans désir. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, parce que on pourrait vivre avec ce désir d'une façon harmonieuse. Je sais pas si dans le monde de Gauguin, là, en Polynésie, je sais pas, il y a un désir qui est parfaitement harmonieux des uns avec les autres. Je sais pas, un monde idyllique qui n'a connu pas de religion, qui a connu pas de contraintes. Mais en même temps, c'est intéressant quand, dès que la religion arrive, et il décide que ce désir, la seule solution de gérer ce désir, qu'on voit qu'il est un peu, comment dire, instable, dangereux, etc., c'est avec la répression. Et ça va créer une... Parce qu'on pourrait avoir pensé, non, c'est pas avec la répression, ça sera avec les données, je sais pas, plus de liberté, ou de l'accepter tel qu'il est, ou... Non, il y aurait des autres solutions pour gérer ça. Mais dès qu'on arrive quelqu'un, la religion dans ces cas, je sais pas, on va pas discuter les motivations, mais qui décide, ah non, c'est avec la répression qu'on va gérer ça. Alors... ça ouvre un autre monde d'une autre complexité, d'une autre, comme dire, je sais pas, des problèmes qu'on ne pourrait jamais imaginer qu'on pouvait avoir. Et si on avait resté dans l'innocence, dans la pureté, non, de vivre ses désirs d'une façon simple et innocente. Mais en même temps, ça va générer toute une histoire non philosophique, tout un contenu pour l'histoire de l'art, un contenu peut-être beaucoup de souffrance aussi, il faut l'avouer. Mais je sais pas, dans cette souffrance qu'on arrive à nous connaître ou à connaître des liens dans notre être qu'on pourrait avoir pas connu d'une autre façon. Et moi, je remercie à... Bon, c'est Buñuel qui disait « Je suis athée, grâce à Dieu ». Mais je remercie un peu d'avoir pu... parce que, qu'on a connu, d'avoir pu connaître la répression. Parce que ça génère, je ne sais pas, des sentiments très différents, très forts, qu'on ne peut pas arriver à connaître d'une autre façon. Alors, je ne sais pas, c'est aussi... On apprend beaucoup de choses de nous-mêmes à travers de ça. Peut-être, évidemment, on n'est pas dans le monde idyllique. Comme j'ai dit, ça peut donner des souffrances, mais on gagne des choses aussi.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter. Nous sommes au Festival de Cannes en compagnie d'Albert Serra. Vous écoutez son choix musical, Just Like a Woman de Richie Havens.
Nobody feels any pain. Night as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes. Lately I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. Ah, she takes just like a woman, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks just like a little girl. My friend, I believe I'll go see her again. Hey, nobody has to guess that baby can't be blessed till she finds out that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. Ah, she takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. And I was dying there at first, so I came here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. As friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, and you make love.
like a woman, but you break just like a little girl. You break just like a little girl. You break just like.
Je me suis trompée sur le titre, Albert, tout non. à l'heure. J'ai dit pacification, alors que ouais. c'est pacifiction. D'ailleurs, c'est bien un terme d'Albert Serra, ça, de faire un jeu de mots, pacifiction. Et le sous-titre du film, qui deviendra peut-être le titre du film, c'est Tourment sur les îles. Alors, avec vous, on part généralement très loin. Ce n'est pas la première fois que vous nous emmenez très loin. Mais là, il s'agit d'un décentrement géographique, puisque l'action du film se déroule à Tahiti, mais il s'agit aussi d'un décentrement mental, puisque vous allez mettre en scène pendant plus de 2 heures le personnage interprété magistralement par Benoît Magimel d'un haut commissaire à la République qui ne sait pas très bien où il est, ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, où il se trouve. Nous sommes dans un flou absolu. Mais le flou, vous aimez bien cela, et depuis longtemps, Albert Serra.
Oui, je pense que c'est assez réel aujourd'hui. On parle d'un homme politicien qui est un peu à la moitié entre les pouvoirs, ou ces très grands, ou très cachés super-pouvoirs qui gouvernent le monde, et le, comme on pourrait dire, le peuple. Lui, il est un peu à la moitié. Alors, comme cet écart est chaque fois plus grand, je pense, tout le monde le ressent un peu dans nos jours. Bon, c'est la solitude un peu de cet homme qui ne sait pas quoi faire et comment connecter un peu ces deux mondes.
Alors, il est déconnecté du monde, mais cependant, il a de hautes fonctions représentatives et il doit assurer avec ses interlocuteurs la représentativité de sa fonction. Ce n'est pas la première fois, Albert Serra, que vous attaquez au problème du pouvoir et de sa représentation. Vous aviez présenté ici même, au Festival de Cannes, avec beaucoup de succès d'ailleurs, La mort de Louis XIV, interprété par Jean-Pierre Léo. Et là aussi, vous aviez opéré une révolution copernicienne avec ce que ça veut dire avoir le pouvoir. Qu'a-t-il comme pouvoir, ce haut commissaire de la République, aujourd'hui, puisque l'action se passe, contrairement à Louis XIV, se passe aujourd'hui. Il n'a que les apparences du pouvoir.
Oui, il n'a que les apparences. Et en même temps, il y a quelque chose d'être le dernier, peut-être, homme ou le dernier interlocuteur qui est réel, qui dit des choses spontanées, qui parle, qui dit ce qu'il pense, qui, je sais pas, qui se comporte d'une façon normale, naturelle. Ça, on le trouve de plus en plus très rarement avec les politiciens ou même les fonctionnaires. Tu sais, c'est comme des robots, ils ont un programme, on ne jamais voit rien de spontané, rien qui sort du programme du parti ou du gouvernement. Et c'est vraiment que si on parle parfois de ça, de populisme ou des autres partis, c'est parce que ces leaders sont légèrement plus, tu sais, connectés, qui parlent d'une façon un peu plus spontanée, je pense, d'ici sur son succès. Alors, cet homme, ça reste encore un homme réel, un politicien réel et qui ressent les problèmes et qui voit, en fait, dans les films, il y a un moment où il le dit, il a peur qu'on les mette à l'écart, que c'est supérieur, sa hiérarchie, on les mette à l'écart, parce qu'il devient trop normal, trop connecté avec les réels. Et bon, ça fait partir les films, c'est vrai, dans des lieux un peu, comme on dirait, où il y a la paranoïa, où il y a ce point de vue, cet aveuglement, du point de vue visuel aussi. Et bon, c'est un voyage mental, on partage un peu cette incertitude qu'il y a dans sa tête. Et je pense que pour le cinéma, c'est intéressant, tu sais, de montrer un peu l'invisible, montrer un peu, ce qu'on pense, ce qu'il y a dans notre tête, d'une façon pas démonstrative, pas, tu sais, facile, mais bon, comme voyage mental, vraiment.
Alors, c'est vrai, Albert Serra, que c'est un voyage mental, c'est un voyage psychique, c'est aussi un voyage politique, dans le sens où ce haut commissaire à la République, il existe bien, il a un corps, vous montrez beaucoup le corps de Benoît Magimel, il est toujours habillé de la même manière que ce soit le jour ou la nuit. Et d'ailleurs, votre film se passe beaucoup dans des atmosphères nocturnes. Et simplement, il essaye de faire ce qu'il peut, mais il ne peut pas grand-chose. Parce que ce que vous montrez à l'intérieur de ce territoire, qui est un dom-tom aujourd'hui, c'est que ceux qui dirigent, ce ne sont pas les hauts commissaires à la République. Ceux qui dirigent, ce sont les hommes d'affaires, ce sont les représentants de l'armée, ce sont ceux qui sont censés ne pas avoir le pouvoir, mais qui pourtant le détiennent.
Oui, comme il y a ce petit sujet, qui est un sujet très à la mode aujourd'hui, du nucléaire, là, c'est vraiment, on parle des très hauts intérêts, parce que tu sais, c'est très dangereux, en même temps, ça touche la sécurité nationale, ça touche l'argent au niveau de création d'énergie, où il y a beaucoup d'intérêts aussi, d'indépendance énergétique, etc. Alors là, on parle d'un monde que presque personne ne connaît, non, qui est vraiment éloigné de ce que tous les citoyens peuvent arriver à connaître. Alors, ça existe, je pense, aussi. Et les films, mais en même temps, les films, tu sais, c'est en fantaisie, ils ne se préoccupent pas de comme il est la réalité, tu sais, il y a des choses qui sont très arbitraires, des voyages purement visuels ou esthétiques, non? Et c'est ça un peu l'originalité, de placer tous ces problèmes politiques, c'était un peu mon idée, de placer tout ça dans un contexte un peu visuellement, comme dire, exotique, étrange, par rapport à ces sujets. Normalement, si on parlait de tout ce côté politique, on devrait voir des bureaux, on devrait voir la métropole, on devrait voir des grandes villes, on voit rien de ça, il est jamais dans un bureau, il y a une seule fois, mais presque pas de bureau, presque pas de maison, et boum, il bouge, il se promène dans cette, visuellement, ces paysages visuellement fascinants. Mais bon, les problèmes sont là, un peu cachés, un peu... les problèmes ne disparaissent pas. Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal dans ce paradis.
Alors c'est vrai que c'est une claque cinématographique que ce voyage que vous nous proposez dans cette compétition officielle, Albert Serra. On reviendra sur le style de ce film qui, comme chez vous, est très détonnant, un peu néo-lynchien. On ne peut s'empêcher de penser à David Lynch. Mais il y a aussi un point de vue, j'ai eu l'impression en tout cas, Albert, il y a un point de vue... entre guillemets, non pas du colonisateur, alors que votre personnage principal, c'est le haut-commissaire à la République, mais plutôt vous épousez, en tant que réalisateur, le point de vue du colonisé. Et j'ai cru comprendre qu'au départ, même si vous avez beaucoup modifié ce texte, vous êtes inspiré de Tarita Teripaya, qui était une compagne de Marlon Brando, qu'il avait rencontré au cours de ce fameux film « Les révoltés du Bounty ». Je me trompe ou pas ?
Non, c'est vrai. Ce qui m'a touché de ce livre, c'était, qui est publié en France d'ailleurs, c'était...
Très beau livre d'ailleurs.
Très beau livre, oui, parce que je pense que comme avec l'arrivée des Américains, ou l'arrivée dans ce cas, dans le monde du cinéma, d'une industrie extérieure, ça commence à corrompre l'île. Et tu sais, la pureté, l'innocence, l'honnêteté qui existait, qu'il avait vécu avec ses parents, c'est complètement détruit. Et toute la destruction de la famille, pour elle, c'est qui vient de ça, de cette espèce d'invasion du mal, ou de corruption morale, de corruption mentale, psychologique, etc. Et ce contraste, ça m'a beaucoup intéressé. Et après, bon, les films partent dans des autres territoires. Mais l'idée d'un paradis un peu... qui devient
écorné.
Un petit peu... Ouais, douteux.
Douteux,
qui a un
vendu
univers
vendu au tourisme, mais qui n'existe pas vraiment.
Oui, mais en même temps, le film, je ne sais pas, est tellement, comment dire, tellement libre lui-même et innocent, il prend pas parti. C'est ce que j'aime dans mon film, c'est que c'est un peu l'ambiguïté qui est dans tous les scènes. Il n'y a pas, tu comprends jamais qui sont les bons, qui tous les personnages sont un peu, tu sais, des intérêts.
Oui, il
n'y
a pas
cachés.
De jugement de valeur.
Ouais, c'est ça.
Et... Enfin, sauf que quand même, les Tahitiennes et les Tahitiens font preuve d'un esprit de méditation, de compréhension du monde, y compris du monde naturel et aussi des trafics entre les hommes, beaucoup plus profonds que les Blancs qui passent leur temps à se saouler la gueule et à mater les Tahitiennes.
Ça pourrait être comme ça, mais c'est pas non plus si clair dans les films, je pense. C'est possible, mais c'est pas sûr. Alors, je sais pas. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est cette variété, non, des tons qu'il y a aussi dans les films. Parce que parfois, tu vois, il y a un côté humoristique aussi, il y a un côté un peu moqueur, mais en même temps, il y a un côté très sérieux du point de vue de ça, soit politique, soit cinématographique, visuel, etc. Alors, tu sais jamais dans quel genre de film tu es. C'est beaucoup moins homogène que mes films précédents, beaucoup plus, je sais pas, ouvert, libre d'une certaine façon dans ce voyage. Et pour moi, ça, c'est la clé d'un certain style que je pense que je pourrais développer encore plus, tu sais, cette mélange d'atmosphère. Et aussi l'obsession qu'on avait déjà parlé, même ici dans ce programme, de créer des images inédites, des atmosphères dans certaines scènes qu'on n'a jamais vues avant. Il y a notamment dans les films deux ou trois scènes que je pense qu'on n'a jamais vu cette tonalité avant.
Vous avez dit atmosphère, Albert ouais. Serra. Et effectivement, on peut dire que nous, spectateurs et spectatrices, nous sommes embarqués avec vous dans cette île. Alors cette île, c'est Tahiti, on la voit, on la découvre, elle est splendidement cinématographiquement parlant donnée, offerte, mais en même temps elle reste d'une opacité, d'un mystère, car vous la montrez sauvage, impossible à connaître, comme si elle-même, par tant de beauté, elle vous échappait, à vous, le cinéaste Albert Serra.
Mais ça, j'aime beaucoup le mot que vous avez utilisé, opacité, parce que ça, c'est au cœur de tout mon travail. Moi, je traite tous les éléments du film, soit les paysages, soit les acteurs, soit les personnages, soit la lumière, soit la... avec, comme si c'était vraiment des éléments opaques, où je ne peux rien faire. Et j'ai aucune idée antérieure de tous ces éléments. J'essaie de vraiment rester et les traiter comme si c'était des restes, comme si c'était des traces ou d'indices, des choses, mais sans vouloir imposer une signification, c'est assez, comment dire, prétentieux. Non? Et c'est comme ça que je pense que ça reste encore plus vivant et surtout plus innocent, tout ce qu'il y a. Et c'est ça la paradoxe. C'est très sophistiqué, je pense, au niveau formel et certains choix, je sais pas, du montage, etc., de mise en scène.
Très sophistiqué. Ouais,
mais en même temps, ça reste...
Avec assez... des montages très cut par moment qui ouais. fait que le voyage continue.
Oui, oui. Ouais.
Vous c'est nous un... embarquez.
Oui, oui. Moi, je pense, hein, c'est un peu quelque chose que j'ai déjà essayé un peu avant, avec Liberté, tu sais, dans ce mouvement, dans ces forêts, etc. Mais là, c'est encore plus étrange parce qu'il y a un côté narratif très clair, avec des dialogues du point de vue dramatique très important pour comprendre les films. Mais là, l'hypnose, un peu cette espèce d'hypnose assez bizarre, ça existe encore. Et c'est ça qui me... Mais ça reste innocent. Tu sais jamais, non, avec cette opacité, tu sais jamais... Qu'est-ce que tu es en train de penser? C'est un peu l'idée d'avoir le point de vue du personnage. Il est dans toutes les scènes du film, presque. Alors, toutes les informations qu'on a sont les informations qu'il a comme spectateur. Alors, c'est ça. On est dans la confusion de sa tête et de ses parcours politiques ou de ses recherches administratives, politiques, etc. Mais opacité, j'aime bien ce que vous avez... C'est la clé, je pense, pour garder l'innocence du cinéma. Évidemment, il faut perdre son temps pour, si on part de ce principe d'utiliser l'opacité, ce n'est pas des séries télé. Il faut vraiment avoir... Dans
ah les... non, ce n'est pas une série télé, non.
Il faut être dans... prendre ton temps, tu sais, c'est une expérience physique presque.
Tout à fait, physique et psychique, je dirais.
Et il faut être là, et je pense que c'est encore le cinéma qui permet ça, de rester dans cette expérience physique, d'être tranquille, mais où, petit
tranquille,
à petit,
tranquille, on n'est pas non. tout le temps tranquille. Vous avez dit tout à l'heure, Albert Serra, le mot hypnose. Effectivement, vous nous proposez une séance, non pas d'hypnose, peut-être d'hypnose, mais aussi de transe. En tout cas, on part. On s'en va. C'est rare que le cinéma nous introduise à un espace imaginaire que vous créez de toutes pièces. Et je vais prendre un exemple précis d'un très court moment de votre film, qui est d'ailleurs tout à fait étonnant. On se demande comment vous avez pu le tourner. C'est celui que nous ressentons comme très en déséquilibre. Vous nous mettez en déséquilibre total. Nous, les spectateurs de votre film, Albert Serra, c'est quand ce haut commissaire va partir sur une petite moto d'eau, enfin sur la mer. On sait qu'à Tahiti, il y a une barrière de corail et qu'après la barrière de corail, eh bien, il y a la houle de l'océan. Et vous nous proposez une séquence qui dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure, je crois, où ce haut commissaire se trouve sur la houle de l'océan. On ne sait pas s'il va tenir sur cette petite moto. Et on se dit, mais les éléments de la nature vont-ils être plus forts et emporter le film encore plus loin ?
C'est possible. Bon, là, la nature,
comment
c'est...
vous avez filmé ?
Un peu par hasard, on était là. On nous avait dit qu'il y avait, que c'était le jour où cette bague il va arriver, parce qu'il vient des États-Unis, en fait. Et c'est assez bien calculé quand il arrive. Mais en même temps, il y avait confinement, alors il y avait un championnat du monde du surf, et c'était annulé. Alors il restait que des gens qui, pour plaisir, étaient un peu là, en train de faire des essais. Mais c'était plus possible de tourner, parce que c'était annulé les championnats. Alors, bon, on s'est dit, on y va. Et Benoît, qui est très, tu sais, spontané aussi, dans son travail, est très... il dit, ah, est-ce que je vais prendre une moto ? Il dit, on va prendre.
Donc, le cinéma, c'est aussi la liberté de tourner dans ce temps imparti qu'est le tournage. Donc, vous tournez pas forcément selon un scénario déjà complètement structuré où toutes les scènes sont enchaînées.
Moi, j'aime le scénario de l'avoir parce que j'aime de l'écrire, mais en même temps, là, je profite des éléments que j'ai. Tu sais, et les éléments sont notamment les acteurs, parce que tu commences à faire des castings, et je change constamment d'acteurs, il y a plusieurs acteurs qui font les mêmes personnages, je fais toutes les combinations possibles, ou quand je sens que ça va donner quelque chose. Et c'est ça le matériel qui va être en face de caméra, c'est même pas le scénario. En plus, on n'a pas de temps. Moi, j'aime un peu les chaos qu'il y a dans les tournages, les risques aussi que ça signifie de tourner. En plus, je l'ai fait très vite. Le tournage, c'était 26 jours. Alors, il faut, tu sais, déséquilibrer tout ce qui est prévisible d'une façon ou de l'autre. Et moi, je suis là pour ça. C'est vrai que, bon, je l'aide, j'ai trois caméras toujours. Je tourne beaucoup de rushs. Dans cette film, c'était 540 heures de rushs. Avec, j'avais des transcriptions.
Vous n'avez pas dû beaucoup dormir pendant le tournage.
Non,
alors,
surtout pendant les montages. C'était encore pire. Parce que j'avais, pour monter les films, les monteurs, qu'on était trois, avec trois stations de montage, en même lieu, 1276 pages de transcription dialogue. Alors, parce que sinon, tu es complètement perdu, tu ne peux rien te rappeler, c'est impossible de monter. On monte souvent sur les papiers, parce que c'est impossible de les faire sur l'image. Et bon, là, tous les risques un peu du tournage, ce chaos, ce déséquilibre, pour retrouver, je pense, une forme assez rassurante au niveau narratif, d'homogénéité, etc., au montage, grâce à ça. Peut-être ce travail avec trois caméras qui sont là tout le temps et qui captent des choses. Et ça, c'est une autre de mes théories, que la caméra voit des choses que les yeux humains, c'est impossible qu'ils puissent voir. Même moi, je n'utilise pas beaucoup mes yeux. Ou en tout cas, c'est que la caméra tourne dans les tournages. C'est tout complètement à part de ce que je regarde. C'est-à-dire, j'ai fait confiance.
Ça, c'est très intéressant ce que vous dites là. Ça veut dire que la caméra, elle agit elle-même comme une sorte d'œil qui atteint le mystère que nous ne pouvons pas atteindre.
La caméra est très bonne pour certaines choses. Par exemple, la caméra ne se fatigue pas. La caméra peut poser un regard ultra concentré sur un détail. Les yeux humains vont se fatiguer, vont commencer à imaginer des choses. Par contre, les yeux humains sont bons, je ne sais pas, pour juger esthétiquement en plan. La caméra ne peut pas juger esthétiquement en plan. Ou pour anticiper des mouvements, pour avoir des intuitions, ça va avec les yeux humains. Mais pour certaines, tu sais, captations de choses, c'est impossible que les yeux humains puissent avoir la puissance de la caméra. C'est impossible.
Et d'ailleurs, le film atteint le mystère de l'invisible, le mystère de l'insondable. Il le caresse, il le met en lisière, comme si effectivement une des définitions du cinéma pour vous, Albert Serra, ça se serait peut-être d'atteindre, je sais pas, l'inconnu de ce qui n'est pas encore visible, quoi.
Oui, ou l'invisible de la réalité qui peut être capté pour ces caméras, parce que les yeux on le voit pas. Alors, c'est grâce à la caméra, grâce au cinéma, grâce à la mise en scène, grâce à cette espèce de vie parallèle un peu fausse, mais en même temps un peu réelle, qui est le tournage, cette boule non? Là, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle. Et là, on peut rendre visibles certaines choses qui sont invisibles, simplement invisibles. Et pas tolérables, ça serait pas tolérable de vivre une vie si intense. Tu sais, le quotidien se charge de baser un peu toutes nos perceptions, toutes nos sensations, mais le cinéma peut récupérer l'intensité de notre regard et de notre intuition aussi. Donc, je ne sais pas, je tourne un peu avec cette idée. C'est pour ça qu'avoir un scénario ou avoir des idées préconçues, ça peut casser cette possibilité parce que tu rends encore une autre fois la vie dans un quotidien, dans un pensée avec des préjugés, avec des idées établies. Alors, non, ça serait comme la vie normale. Il faut trouver un moyen de remettre de la pression à les choses et à les personnes pour faire ressortir cette puissance et cette intensité d'une vie parallèle, cachée, mais plus intéressante, je pense, plus riche à moi, et plus ambigu aussi.
En tout cas, merci infiniment et bravo pour ce nouveau film, Pacifiction, et non pas Pacification, non. Pacifiction.
C'est pas pacifique, le
film. C'est pas pacifique, mais c'est une pacifiction magnifique. Ouais. C'est des tourments dans l'île, là, ils sont vraiment bien réels, en compétition officielle à Cannes. On vous souhaite bonne chance. Merci infiniment, Albert Serra. On va se quitter avec Alexia Grédy.
Toi, tu ne ressembles à personne, mais tu me fais drôlement penser aux oiseaux, aux oiseaux. Dis-moi, je n'en ai plus la moindre idée, comment nous sommes-nous retrouvés à cette terrasse de café. Quel drôle de jour, quel drôle d'idée de m'emmener chez toi danser.
C'est avec Alexia Grédy que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Albert Serra et bonne chance pour ce film. On attend la sortie de votre film sur tous les écrans en France. Ça sera en novembre prochain. Merci à Jean-Baptiste Audibert. Merci à Georges Thau qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer et Marie Clément. Et après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka Sayas pour son Very Good Trip.